Merci, bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis un généraliste, donc je ne vais pas rentrer dans les détails très pratico-pratiques de la mise en œuvre de la trame verte et bleue. Par contre, on a des spécialistes dans la salle, donc si vous avez des questions plus précises à la fin, il y a des gens qui sauront pour répondre. Mais donc ici, c'est pour donner un cadre général à l'intervention et vous parler de la trame verte et bleue. Il faut savoir que la trame verte et bleue, c'est un concept français qui apparaissait dans le SDR version précédente, mais qui n'a pas été retranscrit dans cette version-ci. On a une autre option qui a été prise. Et la trame verte et bleue, en fait, c'est une traduction opérationnelle du réseau écologique. Alors, le réseau écologique, vous savez sûrement ce que c'est. C'est un réseau qui est composé de zones noyaux, qui sont les réservoirs de biodiversité au niveau régional, national, européen, etc., reliés entre eux par des corridors qui assurent les liaisons entre ces différentes zones noyaux et des zones tampons, qui protègent les zones noyaux et les corridors. Et donc, très théoriquement, ça se traduit par, en vert foncé, les zones vraiment à préserver qui sont le réceptacle d'une riche biodiversité. Et ensuite, des corridors qui permettent aux différentes espèces, habitats, d'accomplir tout leur cycle biologique et qui peuvent prendre différentes formes, parce que vous voyez qu'ici, par exemple, vous avez ce qu'on appelle des pas japonais. Donc, par exemple, pour des espèces d'oiseaux, ils n'ont pas besoin d'une liaison physique entre leurs différents habitats. Ils doivent se déplacer d'habitat en habitat, mais certaines espèces, évidemment, des mammifères, doivent avoir des liaisons physiques entre les différents corridors. Bref, le réseau écologique se traduit à niveau français par la trame verte et bleue. Alors, les Français, en fait, ils sont partis d'un concept très simple. Aux différents niveaux stratégiques, donc il y a les SCOT, je ne sais pas si vous connaissez, en France, donc ils sont un petit peu l'équivalent du SDT chez nous, mais à plus petite échelle. Et puis, ça se décline vraiment comme chez nous. Plus on descend au niveau de l'échelle, et ils déclinent chaque fois la trame verte et bleue en fonction des étages supérieurs. Et donc, eux prennent des espèces cibles et des habitats. Donc, par exemple, la sous-trame zone humide, dans un premier temps, puis la sous-trame milieu ouvert, donc c'est-à-dire des prairies de fauche, des mégaforbiers, etc. Puis une sous-trame lande, une sous-trame aquatique, une sous-trame forestière. Ils superposent toutes ces couches pour obtenir la trame verte et bleue. Ça a l'air facile comme ça, mais dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Mais par exemple, si on prend, je vais juste citer un exemple que je connais bien, comme j'ai travaillé sur le life loutre, la loutre, qui n'est plus présente actuellement chez nous, mais bien en France. Si on prend cette espèce, au niveau de son cycle de vie, de quoi est-ce qu'elle a besoin? Déjà, elle va occuper 15 à 20 km de cours d'eau, de manière territoriale. Elle va avoir besoin de caches sous racines pour faire ce qu'on appelle ses catiches, donc l'endroit où elle va se reproduire. Elle a besoin de zones de repos très calmes, donc c'est-à-dire par exemple des prairies de fauche ou des mégaforbiers qui sont très peu entretenus, où elle va pouvoir se reposer parce qu'elle va se déplacer, elle ne va pas revenir tous les jours à sa catiche, elle va avoir plusieurs endroits. Elle a besoin de poissons pour se nourrir dans les cours d'eau. L'hiver, elle va plutôt manger des batraciens ou des poules d'eau. Donc, elle a besoin de vraiment tout un ensemble d'éléments au niveau de son réseau écologique, ce qui fait qu'on l'appelle aussi espèce parapluie, parce que toutes les restaurations, toutes les gestions, la protection qu'on va faire pour cette espèce sera bénéfique pour d'autres espèces. Voilà. Et donc, on pourrait faire un sous-réseau loutre qu'on mettrait à côté d'un réseau oiseau type... je ne sais pas, Martin Pêcheur ou Cinque-le Plongeur, si on reste au niveau des cours d'eau, etc., etc. Et en additionnant tout ça, on obtient la trame verte et bleue. Voilà. Alors, comment est-ce que ça se traduit après dans les documents d'urbanisme? Ici, on a le schéma régional de cohérence écologique de la région de Lille. Alors, ce n'est pas très visible, mais vous voyez qu'il y a des grands couloirs verts et bleus. Donc, la trame bleue, c'est tout le milieu humide, milieu aquatique. La trame verte, tout le milieu physique, bois, prés, etc. Et donc, mais on ne le voit pas bien, par exemple, même dans l'agglomération de Lille, on voit qu'ils ont prévu de faire des coulées vertes pour relier des zones de biodiversité qui se trouvent à l'intérieur de la ville et qui sont des zones potentielles, donc qui comptent restaurer. Et donc, ils ont prévu aussi des liaisons entre ces zones. Et évidemment, en dehors, dans les zones plus rurales ou externes à la ville, mais voilà, c'est sans doute des corridors beaucoup plus faciles à faire, alors qu'ils sont soit présents, soit à reconstituer. Donc là, il y a une planification qui est envisagée. Donc ça, c'est à l'échelle, comme on l'a vu avec le SDT, c'est une programmation plutôt à l'échelle régionale. Ensuite, on descend un petit peu au niveau de l'échelle et on travaille au niveau communal. Au niveau communal, même chose, même principe. Voilà, on va schématiser les zones à préserver, les zones à développer, les zones à enrichir, à restaurer. C'est toujours le même principe. Ce qui devient intéressant, évidemment, dans les logiques d'aménagement et d'urbanisme, c'est de travailler à l'échelle du quartier ou à l'échelle du lotissement, etc. Et ici, on voit que c'est un parc naturel dans le Vercors, une commune qui a vraiment décidé de restaurer son réseau écologique. Alors, ici, il y a des points qui sont intéressants parce qu'on parle d'attractivité territoriale. Alors, il ne faut pas se mentir parce que la trame verte et bleue, c'est quelque chose quand même de très scientifique. Il faut quand même des connaissances. Voilà, il faut avoir un travail méthodique et objectif pour la définir. Maintenant, ici, dans les arguments qu'ils présentent, c'est inviter la nature à entrer dans les espaces urbains. C'est important pour rafraîchir, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais gérer les eaux de pluie, par exemple, améliorer la qualité de l'air, créer des refuges pour la biodiversité urbaine et améliorer la qualité de vie. Donc voilà, ça, c'est les objectifs qu'ils ont mis derrière le développement de la trame verte et bleue au niveau de la ville de Drac et qui leur permet de planifier toute une série d'aménagements. Alors ici, on se retrouve au niveau du quartier. Ça, c'est un quartier qu'on a visité en 2002 dans les Caps et Marais d'Opale, donc parc naturel des Caps et Marais d'Opale, qu'on connaît bien parce que c'est une région assez touristique. Et donc, un village un petit peu en retrait de la côte où, en fait, avec l'arrivée du TGV à Calais, il commence à avoir beaucoup de gens qui font Calais-Lille. Et donc, l'urbanisation se développe très fort. Mais ils n'avaient pas envie de développer n'importe quelle urbanisation. Et donc, ils ont décidé de mettre en œuvre, avec l'aide d'un promoteur, mais une espèce de ZAC à la française, en définissant toute une série d'objectifs de la trame verte et bleue, notamment le fait qu'il y avait une zone humide dans le bas de la parcelle, et donc directement en amont du projet, ils décident de préserver cette zone. Et donc, elle ne sera pas urbanisable, mais elle sera bien préservée parce que c'est une zone de liaison entre plusieurs milieux. Alors, ils vont aussi l'utiliser en partie pour faire un lagunage, ce qui les intéresse. Mais voilà, ils essayent de concilier les différents enjeux. Une chose qu'ils ont faite aussi, ils ont fait des liaisons vertes, piétonnes, mais également, comme on le voit sur cette photo, ils vont faire le maillage, si vous voulez, dans la parcelle eux-mêmes. Donc, avant que les projets se mettent en œuvre, ils vont créer la trame eux-mêmes avec des espèces indigènes, etc. Ce qu'on a souvent dans les projets chez nous, mais qui est plus difficile à mettre en œuvre à partir du moment où on laisse la liberté aux gens de l'appliquer, même si après il faut contrôler. Ici, ils ont pris le parti inverse, c'est-à-dire qu'ils ont anticipé, ils ont fait tout le réseau, et puis après, les habitations viennent se greffer à ce réseau. Alors, un autre cas qui est plus pour illustrer le fait qu'il y a un changement de mentalité aussi, c'est l'ancien hôpital Edith Cavell à Bruxelles. Le promoteur qui a racheté les 25 000 mètres carrés va finalement en utiliser 20 000 mètres carrés. Donc, il réduit. Et pourquoi ? Pour détruire l'intérieur de l'îlot et installer un petit point d'eau avec de la végétation, des promenades, etc. Mais ce qui montre aussi que il y a une attractivité dans la mise en œuvre d'espaces verts, d'espaces publics. Mais il ne faut pas s'y tromper. Ça peut faire partie de la trame verte et bleue, mais en ville, c'est plus compliqué d'avoir un maillage très cohérent. Il faut voir comment on va le mettre en œuvre, si c'est paysager, si c'est vraiment avec des espèces indigènes, etc. etc. Donc, moi, j'ai vu dans d'anciens projets urbanistiques une présentation de la trame verte et bleue, c'était en fait des écoulements d'eau dans des beaux correspondait pas au petit caniveau en béton. Et donc, on nous présentait ça comme une trame bleue. Mais donc, ce n'est pas ça, la trame verte et bleue. C'est vraiment, il faut qu'il y ait des objectifs liés à la biodiversité, aux espèces et aux habitats. Voilà. Et donc, petit conseil pour la trame verte et bleue. Identifier en amont le réseau écologique, les espèces présentes et les éléments à préserver. Et donc là, c'est très bien parce qu'après, on a un urbaniste. On va voir si, comment il a travaillé. Petite pression. Mais donc, le travail se fait bien en amont parce qu'on ne va pas recréer par la suite une trame alors qu'elle existe déjà. Il faut bien pouvoir identifier quelles sont les espèces présentes, quels sont les éléments à conserver et comment on peut préserver certains espaces, les ressortir de l'urbanisation pour après éviter d'avoir des frais complémentaires très importants pour recréer du maillage un peu artificiellement. Donc préserver des zones sensibles et les sortir de la zone urbanisable, je viens de le dire. Intégrer dès le départ le projet, les corridors et les zones tampons. Et essayer d'être accompagné par des personnes locales. Là, ça rejoint un petit peu ce que tu demandais au niveau participation. C'est vrai que c'est un sujet très technique à la base. Après, il y a plein de gens au niveau local qui ont une connaissance fine de leur territoire, qui font soit partie d'associations naturalistes, de PCDN, de parcs naturels, de réseaux de GAL, etc. et qui peuvent apporter une expertise plus fine sur le type d'habitat, le type d'espèce qu'on retrouve. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un très bon support aussi pour voilà, commencer à bien penser son réseau écologique avant d'urbaniser. Et voilà, j'ai fini. Je pense que c'était un peu court, mais j'espère que vous avez plus ou moins compris le concept. Et donc, vous voyez que ça peut se décliner à différentes échelles. Et ce qui a été fait ici pour les SDT, et, voilà, de manière, enfin, on peut en reparler, va se décliner après au niveau des différents schémas. Et donc, c'est important d'avoir une bonne première échelle pour pouvoir après pouvoir le décliner plus localement. Et donc, vous voyez que même dans les sols, c'est important de pouvoir identifier ce réseau et les différentes fonctions que cette trame verte et bleue ou ce réseau écologique peut avoir. Au niveau santé, c'est vrai qu'on n'y a pas encore, on l'a pas encore abordé, mais il y a beaucoup d'études qui font des relations maintenant entre la biodiversité et la santé. Donc plus la biodiversité est élevée et plus les personnes sont en bonne santé, notamment avec les allergènes, avec toute une série de facteurs qui ont bien été décrits. Puis, voilà, on est aussi dans une grande phase d'extinction de la biodiversité, et donc c'est un moyen de pouvoir répondre à ces enjeux-là au niveau local. Enfin, voilà, il y a toute une série de choses qui concourent au fait que, au niveau local, il est important de pouvoir prendre en compte le réseau écologique. Voilà. Et donc, trame verte et bleue, c'est français. Alors, je vous invite, si vous avez des questionnements par rapport à ça, à aller consulter le site trameverteetbleue.fr. qui est très complet, puisque ça fait une dizaine d'années qu'il développe le concept. Et donc, vous avez des exemples très concrets qui vont vraiment du SCOT à la parcelle. Donc là, vous trouvez toutes les informations dont vous avez besoin pour réaliser vos projets. Voilà, je suis disponible si vous avez des questions.